Bonsoir Marguerite et bonsoir à tous. Un mort, un disparu, un blessé grave dans l'Aude. Dernier bilan date du deuxième feu, le plus important de ces 50 dernières années. Nous rejoindrons dans un instant Boris Loumagne à Saint-Laurent-de-la-Cabrerys. Une catastrophe d'ampleur inédite, déclare François Bayrou qui s'est rendu sur place. Quelle stratégie adopter face à ces méga-feux à l'heure du changement climatique? Explication de Raphaël Belabdel-Moumen. Marine Rosset, présidente des scouts et guides de France, démissionne après des mois de critiques, principalement venues de sites d'extrême droite, critiques qu'elle lie à son homosexualité ainsi qu'à ses engagements politiques, précision de Marion Ferrer. Les directeurs des différentes branches des organisations des Nations Unies ainsi que 200 ONG demandent aux autorités israéliennes de retirer une réglementation qui, depuis le mois de mars, menace leurs activités dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Correspondance de Ramallah, d'Alice Moreno. Et puis au Liban, les autorités vont devoir gérer une sèche fin de non-recevoir, celle émise par le Hezbollah qui refuse de se plier à la décision du gouvernement de désarmer le parti milice chiite. Arthur Saradin nous appellera de Beyrouth. Les incendies font toujours rage dans l'Aude. Une femme est décédée chez elle à Saint-Laurent-de-la-Cabrerys. Dans cette même commune, une personne est portée disparue. Une autre, gravement brûlée, était transférée au service des grands brûlés au centre hospitalier de Montpellier. 9 pompiers ont été blessés. Les flammes ont parcouru 16 000 hectares de garrigues et de résineux sur 15 communes impactées et détruites ou endommagées. 25 habitations ainsi que 35 véhicules. Les équipes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles avec des vents changeants sur un feu complexe, déclare le porte-parole de la sécurité civile. On évoquera dans un instant les questions que pose le dispositif arrêté face à un tel sinistre. Mais rendons-nous d'abord au plus près des opérations en cours. Bonsoir Boris Loumagne.
Bonsoir.
Vous êtes justement dans cette commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerys. Le vent, semblerait-il, se calme.
Oui, il faut être encore prudent, mais c'est la bonne nouvelle qui semble se dessiner en cette fin d'après-midi. Le vent s'est calmé, il a tourné également, mais surtout il s'est calmé. D'ailleurs, on peut le constater notamment en regardant les panaches de fumée qui se dégagent des forêts autour de nous. Ces colonnes montent droit vers le ciel, une accalmie. Donc, enfin, c'est ce que vient de nous confirmer le capitaine Hugo de la brigade militaire de la sécurité civile. Avec ses hommes, ils sont déployés en protection d'un hameau à 2 km de Saint-Laurent-de-la-Cabrerys.
Alors le vent a changé de direction. On pourrait croire que c'est défavorable dans un premier temps. Alors oui, ça peut l'être parce que forcément il faut réarticuler les moyens et repenser la tactique pour stopper le feu. Toutefois, la force du vent est moindre par rapport à hier. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour les forces sur le terrain et même dans les airs. Là où nous sommes placés aujourd'hui, on a eu différentes montées en puissance vu l'arrivée du feu, qui au final s'est calmée. Donc sur ma position à moi aujourd'hui, oui, la situation est favorable. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle l'est sur tous les flancs du feu.
Oui, il faut rester très prudent à cette heure. Et puis surtout, les prévisions météo pour demain sont plutôt défavorables avec un vent qui pourrait reprendre. Et puis ce week-end, de fortes chaleurs sont attendues. C'est ce qu'ont confié les pompiers d'ailleurs au Premier ministre François Bayrou qui était sur place tout à l'heure. Les pompiers restent donc pleinement mobilisés. Autour de nous, c'est toujours un balai ininterrompu de camions, de bulldozers pour creuser des tranchées et ralentir la progression du feu, de canadaires et d'hélicoptères également.
Merci à vous, Boris Loumagne, accompagné de Martin Troadec. Oui, 2150 pompiers sont à pied d'œuvre, très exactement. Des pompiers soumis à d'incessants réajustements. Tenez, propos d'un pilote de Canadair cette fois. La stratégie pour contenir ce feu est donc complexe, car il est impossible d'attaquer le feu directement par la tête, qui génère beaucoup trop de flammes et de fumée. On est obligé de travailler sur les flancs, et donc on va larguer à partir de l'origine, en remontant vers les flancs. Bonsoir Raphaël Benabdelmoumen.
Bonsoir.
Voilà qui pose la question, Raphaël, de la nature même du dispositif et donc de la stratégie à adopter, devons-nous dire, en pareille circonstance.
Oui, les pompiers disposent d'une doctrine bien précise dans ce genre de situation. On l'appelle attaque massive sur feu naissant. Comme son nom l'indique, la priorité est donnée au nouveau foyer, quitte à réduire les moyens sur un feu déjà en cours. Cette stratégie, elle date des années 70-80. Elle nécessite beaucoup d'hommes et de matériel. Des avions qui sillonnent le ciel de façon préventive, des colonnes de pompiers sur les zones à risque. Objectif, intervenir intervenir quand le feu mesure encore moins d'un hectare pour ne pas se retrouver avec une multitude de petits foyers.
Mais l'incendie en cours dans l'Aude, est un exemple des limites de cette doctrine à l'heure du changement climatique et des méga-feux.
Oui, c'est ce que reconnaît le commandant Éric Brocardi. Il est le porte-parole des sapeurs-pompiers.
La vitesse de propagation du sinistre et son intensité et surtout son démarrage n'a pas permis d'appliquer cette méthode. Donc ça veut dire que lorsqu'on a affaire à cela, il faut encore se repositionner, se remobiliser pour toujours essayer de contraindre l'éclosion d'un tel incendie avec des moyens de prévention qui vont permettre d'éviter ce genre de catastrophe.
Et pour ça, encore faut-il des moyens humains et matériels.
Et est-ce qu'on en a les moyens, justement ?
Eh bien, il y a bien eu la livraison de nouveaux camions pour lutter contre les feux de forêt depuis 2 ans. En ce qui concerne les moyens aériens, la France compte dans sa flotte anti-incendie 8 Dash, dont 2 supplémentaires depuis 2022, et 12 Canadair, mais ces derniers sont vieillissants. Il y a 3 ans, après les incendies en Gironde, Emmanuel Macron avait promis qu'on passerait à 16, sauf que ça prend du temps, explique le commandant Éric Brocardi.
Aujourd'hui, d'arriver au 16, c'est pas comme chez Renault où vous arrivez dans une succursale, vous ouvrez un garage, vous avez des véhicules. Notre flotte aérienne correspond aujourd'hui à un modèle qui pouvait permettre de lutter contre les incendies jusqu'à présent, mais à ce jour, nécessite en même temps d'être renforcé, de pouvoir montrer une certaine agilité sur l'ensemble des territoires nationaux. Donc en fait, on est tout simplement à une bascule entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui face au dérèglement climatique.
Et pour franchir ce cap, les pompiers attendent avec impatience l'ouverture de la première base française de construction de bombardiers d'eau à Istres. Les premiers appareils doivent sortir de l'usine entre 2030 et 2035.
Raphaël Ben Abdelmoumen, élu il y a 2 mois à une large majorité à la présidence du mouvement des scouts et guides de France. Marine Rosset démissionne. Attaquée tous les jours sur les réseaux sociaux en raison de ses engagements politiques, cette conseillère municipale socialiste dans le 5e arrondissement de Paris n'a jamais fait mystère de ses prises de position pro-IVG ni même passé sous silence son homosexualité. Elle a été prise pour cible par des gens extérieurs au scoutisme, s'empresse-t-elle de préciser. Bonsoir Marion Ferrer.
Bonsoir.
Marion, Marine Rosset a principalement été ciblée par des sites d'extrême droite.
Tels que Frontière ou encore Boulevard Voltaire, il fustigeait cette nomination et un profil incompatible avec les guides et scouts de France. Au sein de l'église, beaucoup ont aussi grincé des dents. Sur X, ex-Twitter, l'abbé Clément Barré, par exemple, qui officie dans le diocèse de Bordeaux, lui reprochait son engagement pro-IVG, déplorant, je cite, « des positions qui vont directement à l'encontre des enseignements de l'église ». Mais plus que ses avis politiques en faveur de la gauche, Marine Rosset a été attaquée pour son orientation sexuelle, recevant depuis 5 semaines un déferlement d'injures et de menaces en ligne. Des attaques dénoncées ce soir fermement par Quentin Chex, porte-parole des scouts et guides de France.
Ce qu'on déplore, nous, c'est qu'on en soit encore à venir juger de la qualité d'une personne en fonction de son orientation sexuelle. Ce n'était pas un sujet pour les scouts et guides de France que Marine Rosset soit homosexuelle. Et donc on a considéré, sans doute à tort, que la société y était complètement prête. Et force est de constater, après plusieurs semaines d'attaques, que l'homophobie a continué de s'exprimer et qu'elle a eu des conséquences.
Et sur les réseaux ce soir, on peut lire des messages de soutien, mais aussi de soulagement face à une élection, je cite, toujours incompréhensible. Marine Rosset a déposé plainte début juillet. Le mouvement, lui, réaffirme son soutien et sa tolérance.
Il y a parmi les jeunes qui sont scouts, qui sont guides, des enfants, des adolescents, qui se questionnent sur leur orientation sexuelle, sur leur genre, et c'est très bien ainsi. Il y a aussi des familles homoparentales qui confient leurs enfants au mouvement, et on est ravis qu'elles le fassent, tout comme des familles avec 5 enfants ou des familles divorcées. Et ce qu'on veut que les gens retiennent, c'est que chacun, chacune, a sa place, non seulement dans le scoutisme, mais aussi dans l'église.
Marine Rosset refuse en revanche d'abandonner et reste membre du mouvement. Scouts et guides de France, eux, se réservent le droit de déposer également plainte après cette vague de haine en ligne.
Marion Ferrer, merci à vous. La maison départementale du parc de la Bergère à Bobigny, baptisée le 5 juillet dernier du nom de l'écrivaine et universitaire Danielle Djamila Amranmine, a été incendiée dans la nuit de lundi à mardi. C'est la 3e fois que ce bâtiment est la cible de dégradation. Sa façade a été recouverte de tags racistes à 2 reprises au mois de juillet. Danielle Djamila Amranmine a été active pendant la guerre d'Algérie dans les rangs du FLN. C'est sans conteste l'acte d'héritier de l'OAS selon Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis. 18h09, vous écoutez le journal de France Culture. Les directeurs des différentes branches des organisations des Nations Unies ainsi que 200 ONG tirent la sonnette d'alarme. Une nouvelle réglementation imposée par les autorités israéliennes menace l'intégralité de leurs activités humanitaires dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, s'inquiète-t-il. Ces ONG sont dans l'obligation, par exemple, de partager des informations personnelles sensibles sur leurs employés palestiniens. C'en est trop, Alice Moreno. Le groupement d'organisations appelle aujourd'hui le gouvernement à retirer cette mesure.
La nouvelle réglementation israélienne fait craindre le pire aux ONG. Depuis mars, parmi d'autres mesures contraignantes, le gouvernement israélien demande aux organisations qu'elles partagent des informations sensibles sur leur personnel palestinien, sans quoi elles ne pourront plus conduire leurs missions humanitaires dans les territoires occupés. « Nous sommes paniqués », me glissait aujourd'hui un salarié palestinien d'ONG basé à Ramallah, qui souhaite garder l'anonymat par sécurité. Pas question pour les ONG de céder, de mettre en danger leur personnel. Mais en refusant de se plier à cette mesure, c'est leur activité tout entière qui est mise en jeu. À moins d'une action urgente, les organisations humanitaires avertissent que la plupart des partenaires des ONG internationales pourraient être radiés d'ici le 9 septembre au plus tôt, alerte aujourd'hui le consortium d'organisations. Les conséquences de ces nouvelles conditions sont déjà bien réelles. Les ONG qui ne sont pas enregistrées dans le nouveau système israélien se voient interdire l'envoi de toute fourniture à Gaza. Le risque, à terme, c'est la disparition totale du soutien des organisations internationales. Sans cette coopération, préviennent les ONG, nos opérations seront interrompues, coupant encore davantage de populations de l'accès à la nourriture, aux soins médicaux, aux abris et aux services de protection essentiels.
Correspondance de Ramallah d'Alice Moreno. C'est une décision historique, celle prise par les autorités libanaises de demander officiellement au Hezbollah de rendre ses armes avant la fin de l'année. Le parti milice chiite a répondu ce matin en étant catégorique. Il explique faire, je cite, comme si cette décision n'existait pas. Il accuse le gouvernement de céder aux pressions américaines et israéliennes qui occupent encore une partie de la frontière. Les Libanais, eux, s'inquiètent surtout d'un processus qui pourrait dégénérer en conflit. Éclairage à Beyrouth de notre correspondant Arthur Saradin.
Il a fallu 5 heures de discussion pour que le gouvernement libanais tranche. Les armes du Hezbollah devront être retirées d'ici la fin de l'année, le tout selon un plan que l'armée devra dessiner avant la fin du mois. Le Hezbollah, lui, rejette ce calendrier et l'idée même de rendre les armes. Son leader, Naïm Qassem, s'est exprimé hier soir.
C'est un plan qui prévoit de dépouiller la résistance de sa force sans garantie d'un retrait israélien. Soyons clairs, toute proposition qui sera faite alors que les agressions israéliennes ont encore lieu sera une proposition que nous ne pourrons accepter.
Le gouvernement a annoncé se réunir de nouveau jeudi pour évoquer les violations du cessez-le-feu israélien et le plan de désarmement. Au Liban, les partisans de l'État central sont surtout inquiets que cette question des armes dégénère en conflit. En 2008, quand le gouvernement libanais avait ordonné le démantèlement du réseau de télécommunications du Hezbollah, celui-ci avait pris les armes. Des conflits partisans avaient alors éclaté à travers plusieurs régions du pays.
Arthur Sardin, Beyrouth. Qu'en termes brumeux, ces choses-là sont dites. Le Kremlin qualifie d'utile et constructive les discussions à Moscou entre l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et Vladimir Poutine, à 2 jours de l'expiration de l'ultimatum américain visant à mettre fin au conflit en Ukraine. Incongruité architecturale, dystopie ou bien prouesse technologique fort utile pour le coup. Le plus grand pont suspendu du monde à venir en Italie. Le gouvernement italien vient d'approuver un titanesque projet de viaduc qui reliera la Sicile au continent. Un feu vert très attendu après des années de blocage et polémiques. Un projet qui fait la fierté du gouvernement d'extrême droite. Blandine Hugonnet est à Rome.
Mieux que la Turquie, le Japon ou la Chine, le pont italien vise un nouveau record mondial. Plus de 3 km de long, tenu par 2 tours de 400 mètres de haut, pour 6 voies séparées par les rails, 6000 voitures par heure, 200 trains par jour. Les chiffres du viaduc qui doit enjamber le détroit de Messine à la pointe de la botte donnent le vertige et font gonfler le torse de Matteo Salvini, ministre des Transports, qui porte ce méga projet en étendard et se félicite d'une avancée historique pour l'Italie. Le comité chargé de la planification des chantiers publics italiens a valider son dossier.
Ce n'est pas un point d'arrivée, mais c'est un point de départ. C'est une grande émotion car jamais ce projet de pont n'avait été approuvé de façon définitive avec toute la couverture économique garantie. On peut dire désormais au futur et non plus au conditionnel que ce sera le pont suspendu le plus long du monde.
C'était un symbole de l'incapacité de l'État italien à mener à bien les grands chantiers, commente la presse italienne qui rappelle 50 années de faux départs pour ce viaduc géant et autant de critiques ravivées activée aujourd'hui contre le coût faramineux de plus de 13 milliards d'euros, les risques sismiques et l'impact sur les écosystèmes. Pour le Sud et les régions les plus défavorisées, ce sera un accélérateur de développement, rétorque le vice-premier ministre d'extrême droite, qui promet fièrement la création de 10 000 emplois et annonce le premier coup de pelle dès septembre-octobre prochain pour une première traversée du pont de Messine en 2032.
En Espagne, un institut public avance que plus de 1 000 décès peuvent être attribués à la canicule pour le seul mois de juillet, soit une hausse de plus de 50% par rapport à la même période de 2024. Quelques mots de la météo de demain, mercredi. Conditions anticycloniques en journée, du soleil sur toute la France. Température maximale comprise entre 25 et 38 degrés. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, la technique Ludovic Auger.